Mohamed Rafsandjani, bonjour.
Oui, bonjour.
Aux Comores, on parle d'une constitution sur mesure pour le président Azali Assoumani. C'est surtout une constitution qui va lui permettre de se représenter.
Alors effectivement, c'est l'un des enjeux de la nouvelle constitution. Dans l'ancienne constitution, le mandat du président était renouvelable, mais il était renouvelable dans le respect de la tournante. Donc il fallait tourner entre les îles d'abord, et une fois qu'on a effectué un cycle entier, on pouvait de nouveau ressolliciter un mandat. Donc il fallait attendre grosso modo 10 ans pour pouvoir renouveler son mandat personnel. Avec la nouvelle formule, ce n'est plus le mandat qui est renouvelable, mais c'est le tour de l'île. De sorte que on ne tourne pas d'abord, on renouvelle avant. Ce qui permet en réalité au président de solliciter après 5 ans un deuxième mandat, sans attendre que la présidence tourne. Ce qui fait que ça va augmenter son mandat presque de 10 ans de plus sur le mandat actuel.
Et la Cour constitutionnelle est supprimée ?
Oui. Une chambre constitutionnelle sera créée à l'intérieur de la Cour suprême, ce qui change beaucoup de choses parce que la Cour constitutionnelle, normalement, ce qui nomme les juges, c'est tous les autorités politiques, donc le président de l'Assemblée, les gouverneurs, alors que à la Cour suprême, les juges sont nommés par décret du président de la République. Donc c'est une manière aussi d'avoir une forme d'influence sur une chambre constitutionnelle qui désormais ne sera pas une cour, mais sera une chambre dans la Cour suprême.
Et les postes des 3 vice-présidents aussi sont supprimés ?
Alors effectivement, c'est-à-dire que du coup dans l'exécutif, il n'y aura qu'une seule tête, qui sera le chef de l'État. La Constitution précise d'ailleurs qu'il sera le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et donc comme il n'y a pas ces vice-présidents qui, dans la formule actuelle, ont le pouvoir de contrefaim, ont un pouvoir de nomination qui est assez important, ça exerce une sorte de contre-pouvoir au sein de l'exécutif même, sauf que là, dans la nouvelle formule, il n'y aura que le président de la République qui sera la figure de l'exécutif.
Quels sont les arguments du pouvoir ?
Il y a essentiellement deux arguments, c'est de dire que la forme de l'État, donc la forme fédérale de l'État, parce qu'aujourd'hui les Comores c'est un État fédéral avec des îles autonomes, et ils expliquent que la forme fédérale est budgétivore, qu'il y a beaucoup d'institutions qui se superposent, et qu'il faudrait passer à un État unitaire, parce que de la sorte, ça serait facile à fonctionner, et surtout ça serait économique. Et enfin, c'est aussi d'expliquer que en multipliant les structures, on ne sait plus où se trouve la responsabilité et que le chef de l'État doit être en mesure d'exercer le pouvoir. Alors c'est lui qui est élu par le peuple au suffrage direct.
C'est-à-dire que si le oui passe, c'est toute l'architecture du pouvoir qui va être chamboulée.
Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on explique aux Comoriens que ce n'est pas une révision constitutionnelle. Il ne s'agit pas de réformer par-ci par-là les articles de la Constitution pour améliorer. Il s'agit véritablement d'une nouvelle Constitution. On modifie la nature de l'État, on modifie la forme de l'État, on modifie la nature du régime.
Dans le projet soumis à ce référendum, il y a aussi des modifications importantes concernant la pratique de l'islam. Qu'est-ce qui change finalement ?
Alors ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, l'islam est la religion de l'État. Et avec le projet de constitution, ce n'est plus l'islam tout court, mais l'islam sunnite. Et ce n'est plus la religion de l'État, mais c'est un critère de l'identité nationale. Donc si vous n'êtes pas sunnite, vous ne faites pas partie de la communauté nationale.
C'est beaucoup de risques pour les chiites ?
C'est beaucoup de risques pour les chiites, puisqu'aujourd'hui, même en étant une simple religion d'État, ils sont persécutés. Vous imaginez, si ça devient un critère de la nation, il y aura un fondement juridique pour fonder la persécution.
Et ce référendum se tient dans un climat qui est tout sauf serein et apaisé ?
Mais en fait, il y a eu beaucoup de manifestations pour redemander le rétablissement de la Cour constitutionnelle. Et du coup, les manifestations sont organisées tous les vendredis, donc le jour de prière, donc forcément, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde, donc ils sont réprimés. Les opposants qui sont à la tête de ces manifestations sont placés en mandat de dépôt, en détention provisoire pour avoir manifesté. Et certains opposants, donc les grandes figures de l'opposition politique, sont placés en résidence surveillée. Donc on est vraiment dans un climat dans lequel le régime semble décider à aller jusqu'au bout de son référendum et dans lequel les opposants, eux, sont décidés à ce que le référendum n'ait pas lieu.
Oui, l'opposition affirme que le scrutin n'aura pas lieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi n'appelle-t-elle pas à voter ? Voter non, tout simplement.
Parce que, en fait, voter non, ça serait participer au processus. Or, toute la position des politiques, c'est de dire le référendum est illégal. Le référendum ne suit pas la procédure prévue par la Constitution. Alors, juridiquement, on peut dire que c'est justifié, mais politiquement, ça revient à laisser le champ à la victoire du oui. Donc, c'est ça qui est compliqué dans le positionnement politique de l'opposition. Et donc, on va rentrer dans une logique de violence, parce que ça nous ramène un peu quelques années en arrière, quand nous étions dans le climat du séparatisme, de où il fallait faire la réconciliation nationale. On est un peu revenu avant les accords de Fombony, et on a peur qu'une étincelle suffise pour qu'on revienne dans les années noires du séparatisme, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, le prochain président est censé être un Mangouané, donc si on fait la révision constitutionnelle, il n'y aura plus la tournante, elle ne va pas tourner la présidence, donc les Mangouanais estiment qu'on leur a confisqué, on leur a enlevé leur tour, et donc tout ça crée des tensions qui sont vraiment très palpables et qui risquent à tout moment de basculer vers un affrontement qui aurait des conséquences assez lourdes.
Mohamed Rafsandjani, merci.
Merci beaucoup.